Les gars, demain, retour de la Ligue des Champions, étoile rouge Belgrade, Paris Saint-Germain. Alors en parallèle, il y aura un match très important pour le PSG aussi, entre Liverpool et Naples. Alors le PSG qui sera qualifié s'ils battent l'étoile rouge. En cas de défaite, si Liverpool perd ou fait match nul, il y a pas mal de cas de figure. Mercredi, c'est Lyon qui jouera sa qualification à Kiev face au Shakhtar. Ce sera d'ailleurs à Kharkiv, parce que c'est en Ukraine. Manchester City, Hoffenheim dans le même temps également. Il suffit d'un nul hein, pour que l'OL se qualifie aussi. Et justement, tu veux lancer un débat, mon Pierre. Jingle du crew.
Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur.
Et toi, Pierrot, tu dis...
C'est pas un débat.
Bon, c'est un débat, enfin une analyse.
Ouais, c'est une analyse, mais qui... Enfin, je pense pas que ça porte vraiment un débat. Vous me direz ça, mais... Je pense qu'on tirera un constat du résultat qui arrivera de ces deux matchs et qu'il y aura forcément. Et je dis pas tout, je le garde pour la fin.
Non mais ça y est, il y est là.
Ça c'est un teasing, ça c'est bon, je peux y aller.
Mais c'est on y est là.
Non, je vais utiliser.
Il n'a pas compris. Il
n'a pas compris.
Je vais utiliser.
En fait, quand t'as ton jingle derrière, t'enchaînes.
Je pensais qu'elle allait finir sa phrase.
Est-ce que tu peux refaire le sommaire depuis le début? Il a pas compris que l'émission a démarré.
L'émission a démarré.
Ce qui surprend Daniel, c'est quand quelqu'un
n'est pas enregistré
et l'autre veut la laisser finir. T'avais commencé une phrase, c'est pour ça que je croyais qu'elle allait finir.
Cousin, tu m'as coupé.
Il est complètement là.
Je t'ai coupé, mais je suis suffisamment poli pour laisser quand même finir ta phrase.
Jingle.
Mais je vais.
Attends.
Jingle. On la refait, d'accord.
RMC. Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
Oh, ravi, soyez bienvenue dans l'After. On est ensemble pendant deux heures de bonheur. Avec nous ce soir, Daniel Riolo. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, les amis.
Ça va, Daniel?
Très bien.
Voilà. Pierre Ducrot également est avec nous.
Bonsoir,
Pierre.
Messieurs.
Je vous rappelle donc tous les résultats de la 17e journée. Il y en a eu beaucoup. Il y en a pas eu beaucoup.
Pitié.
Je vais utiliser la même métaphore que j'ai utilisée, Daniel, tu t'en souviendras, parce que c'était deux fois le lundi, on était ensemble. Ce virage amorcé par Tourel et son groupe. Surtout par Tourel au début et le groupe qui suit derrière. Tourel a pris des risques dans les matchs de Ligue des Champions et pas que, dans d'autres matchs aussi d'ailleurs. On se souvient par exemple de l'OM avec les sanctions de Rabiot et de Mbappé. Des messages forts et le groupe qui suit derrière, ça a amorcé quelque chose justement dans ce virage pris par Tourel et son bus, l'équipe dans le bus. Il y a eu le match de Liverpool. Avant Liverpool, il y a eu le match de Naples où on sent déjà que au niveau du caractère, l'équipe répond présent. Tout n'est pas parfait, mais ça répond présent. Il y a le match de Liverpool ensuite où tactiquement, Tourelle fait des choses. Je vais pas dire le mot, mais un peu couillu quand même. Certaines choses tactiquement que ce même groupe n'aurait pas suivi l'année d'avant. Voilà, très clairement, Unai Emery en a fait notamment les frais. Je parle bien sûr de Marquinhos par exemple, qui tactiquement toute la première période, il fait très très bien d'ailleurs, on était surpris mais ça a très bien marché, qui passait de cette ligne de défense à cette ligne du milieu de terrain. Ça a très bien marché. Cette deuxième période où tactiquement on n'arrive plus à être aussi bon, mais où ça révèle des forces, une force collective ou une âme, un état d'esprit collectif du côté du Paris Saint-Germain pour tenir bon contre Liverpool. Donc on est dans ce virage qui est pris très vite avec des risques.
Bah,
donc
j'ai été entamé il y a déjà quelques saisons. Même,
j'ai cette métaphore. Non, parce que les saisons d'avant justement c'est des petits virages à chaque fois, mais où tu loupes le.
Tu loupais
la sortie surtout. Tu loupais le virage.
Une forme de stagnation.
Là t'es dans un virage, mais c'est vraiment la métaphore que j'ai. T'es dans un virage, tu l'attaques très fort, donc tu prends des risques, t'es limite en train de faire presque du deux roues. Daniel va pas comprendre parce qu'il est déjà en deux roues, lui, toute la journée, mais toi sur quatre roues, Daniel, tu vois, et puis tu l'attaques fort le virage, et t'es à la limite de faire du deux roues. Et là, ce match-là qui arrive pour moi, qui est à la portée du Paris Saint-Germain, mais qui va être compliqué et qui va se jouer une fois de plus, à mon avis, sur un état d'esprit irréprochable collectivement. Et ben, c'est le match où soit, tu bascules et tu fais des tonneaux parce que t'étais trop vite et que le PSG est pas encore prêt à ça ou n'arrive pas à faire ça finalement, et il faudra en tirer beaucoup de conclusions. Soit, eh ben, ce virage, tu l'as pris à la limite de ce qu'il fallait prendre à pleine vitesse, et quand tu vas sortir du virage, si tu gagnes à Belgrade et que tu sors de ce groupe, donc, eh ben, devant, t'as une ligne droite où t'auras appris beaucoup de choses dans ce virage bien négocié par Tourelle et son groupe. C'est là la métaphore un peu. C'est que le PSG aura beaucoup plus grandi dans ces trois matchs-là de la phase retour notamment, que justement, comme tu en parles, les saisons précédentes. Voilà, et tout ça en l'espace de deux mois et demi. Voilà, finalement.
Et Lyon alors?
Alors Lyon, c'est un peu l'inverse. Si je veux utiliser un peu la même métaphore d'une course un peu automobile ou d'un virage, c'est presque Je vais pas dire qu'on les attendait pas parce qu'on avait envie qu'ils sortent et puis c'était possible de sortir de ce groupe, mais c'était pas l'équipe qu'on attendait le plus à la fin de cette phase de poule. C'est l'équipe qui finalement a fait deux exploits en pleine course. C'est les deux exploits contre Manchester City. Quand on fait deux de suite, ça ressemble plus à un exploit. Ça ressemble à des très très bons matchs, des très très belles performances. Et puis bah t'es dans la courbe, le dernier coup de volant est dans le rétro. Et bah t'as cette équipe que t'affrontes pour une finale de groupe et va falloir tout maîtriser là. C'est pas un match où tu dois réaliser un exploit, c'est un match où tu dois tout maîtriser collectivement pour Lyon, parce que juste derrière t'as le Shakhtar qui est là et qui est prêt à te doubler si tu fais le moindre écart, si tu fais la moindre faute. Et c'est tout l'intérêt de ce match contre Lyon, c'est qu'ils doivent apprendre là, ou en tout cas ils doivent faire en un match ce qu'ils ont pas réussi à faire dans cette phase de poule, c'est-à-dire après avoir fait des exploits ou des très grosses performances contre City, validé derrière dans des matchs qui sont un peu plus à leur portée. Et ben là, pour moi, ça correspond cette finale de groupe avec beaucoup de pression, match difficile pour eux. Et ben ça va correspondre à ça. S'ils sortent vainqueurs de ça, peut-être qu'on pourra se dire que les Lyonnais ont compris pas mal de choses.
Ça fait un moment que Lyon en plus a pas passé la phase de groupe de Ligue des Champions depuis 2011-2012. Ouais.
L'année où derrière ils se font taper par Nicosie.
Ouais, en 8e.
Je crois en 8e.
Oh, oui, exact.
Effectivement.
J'ai oublié.
Donc
ça.
Pour Lyon. Je dirais qu'effectivement, il y a, mine de rien, on peut employer le mot, quelque chose d'un peu historique, dans le sens où ils retrouvent goût à une histoire qu'ils ont abandonnée depuis longtemps.
Est-ce que tu dis que c'est inattendu aussi?
J'ai pas dit que c'était inattendu.
Non, mais le groupe est pas simple.
Mais voilà, c'est peut-être pas ceux qu'on attendait le plus. Voilà.
Bon, après, c'est de la Ligue des Champions, hein, donc forcément.
Excuse-moi, mais puisque le président de ce club aime ramener l'analyse du foot à beaucoup de considérations financières...
Oui, si tu prends les budgets, c'est sûr, tu vas me dire qu'ils sont deuxièmes et que c'est normal.
Déjà, Lyon n'aurait pas dû attendre si longtemps avant d'être en huitième de finale de Ligue des Champions. Quand tu vois les équipes qui ont participé au huitième de Ligue des Champions depuis qu'eux n'y sont plus, je pense que Lyon avait sa place sur les 6-7 saisons au moins la moitié du temps, au moins. L'année où ils ne sortent pas dans le groupe avec Séville, la Gantoise et le Zénith, c'est un bel échec. Là, cette fois, au moment du tirage au sort, sans dire que c'était facile, quand même, Lyon a les moyens de terminer deuxième derrière City, parce que Hoffenheim et Shakhtar, ça doit être à la portée de Lyon. Et si au final, ils arrivent à ne pas perdre en Ukraine, eh bien finalement, c'est une forme de logique qui aura été respectée, et ce sera très bien pour ce club. Et tant mieux d'ailleurs, ça validera leur exploit de l'Etihad, parce que sinon ils n'ont pas gagné de match dans cette phase de poule. Donc ils peuvent passer encore une fois là en faisant un nul, ce qu'ils ont beaucoup fait dans cette phase de poule. S'ils gagnent, tant mieux. Ils ont gagné à City avec une tactique de contre qui pour le coup...
Qui a été mise en place.
Ouais, mais je sais pas si contre le Shakhtar... ils peuvent jouer de cette façon-là, parce que le Shakhtar va pas se ruer à pas dans son style le jeu de City ou
sauf qu'à un moment donné ils vont être un peu obligés de le faire quand même, parce que c'est une finale et une finale où le Shakhtar doit gagner.
Tout dépend du scénario du match. Tout dépend du scénario. Si effectivement t'es à 0-0 à un moment le Shakhtar va de toute façon devoir appuyer,
devoir se libérer.
Mais je suis pas sûr qu'ils partent très fort à l'abordage ou dans la façon qu'a Manchester City de sortir sans se soucier de l'adversaire, toujours avec le même style. Donc c'est pas un match simple. Ils ont deux résultats sur trois qui sont favorables pour eux. C'est un pourcentage qui est quand même intéressant face à une équipe qui est habituée un peu plus que Lyon sur les dernières années à être bon en Ligue des Champions. Mais quand même, deux résultats positifs sur trois, c'est bien.
Alors,
après, non, PSG, on répond pas.
Non, je voulais juste qu'on écoute Jean-Michel Aulas, qui était l'invité de Breaking Sport cet après-midi, qui était sur RMC et RMC Sport. Donc, alors on a demandé au président Jean-Michel Aulas si une qualif en huitième des champions était capitale pour son club. Il répond ça, le président de l'OL.
Quand on a la chance d'avoir la qualité offensive de l'Olympique Lyonnais, il faut accepter de prendre plus de risques. Il faut être présent et en championnat et en Champions League. Il faut tenir l'objectif de qualification, c'est ce qu'on va essayer de faire mercredi. Et puis, il faut être placé à la fin du championnat pour pouvoir se retrouver sur le podium, qui est notre objectif. Et pour le moment, rien ne dit dans toutes les statistiques qui ont été données qu'on ne sera pas sur le podium à nouveau à la fin de cette saison.
Voilà, Jean-Michel Aulas, hein, qui est resté assez évasif. Finalement, il a pas trop voulu se mouiller quand on lui a demandé quels étaient les objectifs. Alors, il le dit quand même, hein, au détour d'une phrase. Si on est qualifié, bah c'est bien. L'objectif, c'est de terminer sur le podium. Et c'est maintenant qu'ils sont à cette place-là, c'est d'être qualifié aussi pour la Ligue des Champions.
Le plus important pour l'OL, c'est d'y être,
oui, c'est
et d'y revenir.
Bien sûr.
Ouais.
À la limite, pour la prochaine campagne de Ligue des Champions.
Ce qui est pas bon pour eux, c'est de pas finir sur le podium, ne pas se qualifier demain et aller en Europa League. Ce sera pas une catastrophe industrielle pour Lyon. Ça l'est plus pour le PSG que pour Lyon.
Ça n'a rien à voir. C'est ce que j'allais dire, comme pour tous les clubs français, sauf le voilà. Paris Saint-Germain.
Tu voulais dire sur le PSG du coup?
Oui, donc pour répondre à.
T'as aimé ma métaphore sur le virage?
Oui, c'était pas mal.
Ouais, c'est vrai.
le PSG, quand tu parles des années récentes, oui, parce qu'en fait, eux, ils avaient, c'était toujours en huitième ou en quart. Au début, c'était en quart parce qu'ils avaient des huitièmes faciles.
Quatre fois quart, deux fois huitième.
Après, il y avait les huitièmes plus compliqués. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est simple. C'était quand c'est compliqué, on n'y arrive pas. Cette année, il se trouve que la particularité a fait que les matchs difficiles sont arrivés plus vite. Parce que le groupe était plus compliqué. Le groupe n'a jamais été aussi dur, tout simplement, pour le PSG, avec deux bonnes équipes. Une équipe de Naples qui, quand elle est en Ligue des Champions, va en huitième. Et Liverpool, c'est le tenant du titre. C'est une équipe qui a énormément de moyens, qui est de la dimension du PSG. Et qu'en plus, ils ont commencé par une défaite à Liverpool qui rappelait tous leurs errements passés. Donc ça te ramenait, et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au sortir de ce match, ça te ramenait à l'idée de stagnation. Voilà.
Et c'était il y a deux mois et demi.
Et je les ai pas trouvés, moi, extraordinaires contre Naples, dans le sens où le premier match, je le trouve pas bon. Je le trouve un peu dans...
Non, tout à l'heure, j'ai parlé de la phase retour, moi, effectivement.
Et le match retour, mine de rien, tu marques, tu tiens pas vraiment, tu fais une cagade.
T'as une chose qui est bonne, c'est l'état d'esprit.
Ouais, mais...
C'est les prémices de ce qui se passe en seconde période contre Liverpool après.
Oui, mais dans cet état d'esprit qui, effectivement, est un peu meilleur, tu as quand même, et les symboles, c'est un peu fort... Ton capitaine, qui a toujours été un petit peu, le joueur qui représentait un peu ta faiblesse mentale, qui fait une cagade, qui occasionne l'égalisation. Voilà. Et, puisque l'expression consacrée dit que dans le foot, ça va très vite, arrive le match contre Liverpool, où là, justement, ton joueur symbole, il est énorme, il fait un gros match, il en fait même des tonnes sur l'attitude, et ça passe. Avec un peu de vis à la fin, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Dans l'histoire récente du PSG, le vice pour gagner un peu de temps et tout, ça manquait un peu ça dans le bagage du PSG.
T'as les leaders qui répondent présent.
T'as un peu plus de caractère. La deuxième mi-temps est laborieuse, mais tu t'en sors. Donc t'as un peu avancé dans le temps les matchs importants. Demain, franchement, moi je suis pas matheux. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. D'ici la fin de l'émission, je suis sûr qu'ils sont capables de sortir en stats. Mais c'est quoi? C'est du 90% de chance de te qualifier.
Et sauf. Si tu mets bout à bout
tous les résultats possibles, même en cas de défaite.
Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a la probabilité, même en cas de défaite, que le PSG ne se qualifie pas, elle est quand même. Je crois qu'il faut que Naples.
Il faut que Liverpool perde
3 buts. Enfin, tu vois, c'est un truc assez fou. Il y a un 0-2-0.
Tu as quand même une probabilité qui est si et à ça tu ajoutes les composantes club, quoi, tout simplement la supériorité présumée du PSG. Tu dois arriver. Alors, on va me dire. PSG-Barça, c'était 99%. Enfin, le Barça-PSG. Ok.
Bon, c'est pas le Barça en face.
Normalement,
même si
les exploits comme les énormes catastrophes, elles sont pas faites pour se reproduire souvent, logiquement. Mais il y a une probabilité, mais énormissime, quand tu étudies tous les résultats, que le PSG soit quand même en huitième.
Sauf que si tu veux faire des probabilités, Daniel, il y en a une qui est pas à l'avantage du PSG, c'est que cette équipe ne perd pas chez elle depuis un an et demi.
Oui, non, mais même en cas de.
Ça reste, c'est pour ça que ça reste, même en cas de défaite.
Mais même si tu fais nul, c'est bien. Et même en cas de défaite,
j'espère que les joueurs du PSG ne comptent pas là-dessus.
Non, mais
tu vois ce que je veux dire.
Mais moi,
parce que là, c'est pas comme ça que tu sortiras grandi de ce virage.
Je parle pas de ça. Oui, mais je te dis que.
Et t'auras pas pris grand chose si tu sors de là en perdant à Belgrade et en qualifiant
en huitième. Tu sais très bien que ce qui va être un petit peu retenu, c'est ça. Après nous, les conclusions, bon. Mais il y a quand même de fortes probabilités pour qu'ils y aillent en huitième. Même s'ils gagnent pas, en faisant même un nul un peu pourri, on a fait le job contre Liverpool. Hein.
Je vous donne justement les cas de figure. Donc le PSG sera qualifié en huitième de finale s'il bat l'étoile rouge. Mmh. S'il fait match nul et que Liverpool bat Naples 1-0, 2-1, 3-2 ou par au moins deux buts d'écart, si Liverpool ne bat pas Naples. Voilà. Et après, il y a encore d'autres cas de figure.
Oui, non, mais ils sont
encore plus.
Franchement, c'est un peu dingue, quoi. Donc voilà. Donc oui, je suis d'accord avec la métaphore. Ils sont très loin d'être sortis du virage. Parce que sortir de cette poule, c'est bien, mais évidemment que le rendez-vous le prochain, ce sera le huitième. Que il n'est pas exclu qu'ils aient un coup de bol et qu'ils tombent sur une équipe abordable en huitième. Et là, l'histoire, tu sais, c'est le truc qui est bien aussi avec le foot, c'est qu'une année tu peux être en catastrophe, mais que l'année prochaine, l'année d'après, tu reviens et que tu peux récupérer de la cata. C'est ça aussi qui fait que que ce sport va te permettre de te relever même quand tu tombes. Et bon, ben voilà, l'histoire.
Elle et ce peut, serait pas mal de ça serait pas mal d'avancer là avec tous les changements qu'il y a et qui sont pour moi.
Alors les gars,
qui vont dans le bon sens.
On accueille Thibaut, qui est supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Thibaut.
Bonsoir monsieur.
Comment ça va Thibaut?
Ça va très bien, ça va très bien.
Confiant pour demain ou pas alors?
Bah écoute Nicolas, depuis le début de saison quand on évoque le Paris Saint-Germain, je parle pas seulement en termes de match, hein, de prestations, je parle de tout ce qui entoure le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le fair play financier, les arbitres qui sifflent pas de pénalty pour le Paris Saint-Germain, l'arbitrage un petit peu tendancieux. Si demain...
Les pseudo-matchs truqués,
avec voilà. Si demain, avec l'équipe, quand je parle l'équipe, je parle de qualité de joueur et l'enjeu qui entoure ce match, le Paris Saint-Germain... n'est pas capable d'aller mettre d'aller donner la leçon à l'étoile rouge de Belgrade, même si elle a tenu miraculeusement contre Naples et elle a fait deux tirs face à Liverpool puis ensuite s'est recroquevillée dans sa surface pendant 70 minutes. Si le Paris Saint-Germain avec son équipe n'est pas capable d'aller gagner à Belgrade, ah ben on arrête tout, on parle plus de fair play financier, on parle plus d'arbitrage, on parle plus de d'adaptation, de Neymar qui est heureux, pas heureux.
Ouais, moi là, je suis d'accord, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. T'as une vision qui est un peu dure, mais que je partage au final. Après ce que tu as fait dans cette poule, les résultats, le match charnière contre Liverpool que tu gagnes, si dans le peu de probabilité que t'as de te prendre la porte dans la gueule demain, tu finis par la prendre. Bon bah écoute,
c'est que tu l'as mérité, tu veux dire.
Voilà, passons à autre chose. Pense déjà à l'année prochaine et puis au revoir tout le monde, quoi. Voilà.
Exactement. On parle plus de UEFA, de quoi que ce soit.
Ouais,
là.
Bien sûr. Là, je suis d'accord. Ouais, bien sûr.
Après, messieurs, alors moi, je vous rejoins aussi, mais faudra pas minimiser un bon match du PSG là-bas et une victoire du PSG là-bas. C'est pas simple.
Non, tu ne minimiseras pas, mais c'est de pas toute simple. Façon, ça ressemble à quelque chose qui doit être fait.
Mais attention, quoi. Faut faire ce qu'il faut. Ouais.
Alors messieurs, je vous donne quelques petites infos sur le PSG aussi. Alors vous savez que Neymar s'était pas entraîné hier, il a fait le déplacement à Belgrade. Alors on vous avait dit également, Saber Desfarges avait enquêté, le staff était plutôt confiant quant à sa participation demain pour le match face à l'Étoile Rouge. Il y a 500 supporters qui sont attendus à Belgrade, 500 supporters du PSG également, qui seront très encadrés. Et puis une info qui est tombée il y a quelques instants également.
Neymar, cousin, si je peux me permettre, oui. Ça devrait... Alors oui, on a tous envie, ou en tout cas les supporters du Paris Saint-Germain ou ceux qui veulent voir le Paris Saint-Germain se qualifier, ont tous très envie que Neymar joue. Ça sera mieux. Mais j'ai presque envie de te dire que ça doit même pas être un problème si Neymar ne joue pas demain.
Ah bah bien sûr que ça doit pas être un problème.
Tu dois faire le type de match que tu dois faire demain. Alors ça sera sûrement un peu plus facile avec lui, mais tu dois le faire aussi, être capable de le faire aussi sans lui.
Et puis vous vous souvenez qu'après le match aller, il y avait une affaire de match présumé truqué face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Deux dirigeants parisiens ont été entendus dans le cadre de l'enquête sur ces soupçons justement de match truqué. Et finalement, les enquêteurs sont convaincus que le PSG n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Voilà, c'est une info qui a été annoncée par l'équipe ce soir. Voilà.
C'est vraiment étonnant, hein, tu vois. Ouais. Tu vois, quand je dis que certains médias et tout le monde va vite...
On attend la une des journaux demain pour rectifier
En fait, on décidait que le métier c'était devenu de raconter des histoires et donc de faire du storytelling. Donc ils l'ont fait avec cette une soupçon pour ensuite à l'intérieur dire que ça ne concernait que l'Étoile Rouge, mais évidemment on accède toute la réflexion, toutes les photos, tout le propos autour du PSG parce que ça fait scandale et parce que ça fait vendre. Ce gros titre, je m'en souviens comme de quelque chose de totalement scandaleux, et donc finalement la suite c'est là aujourd'hui le PSG hors de cause. C'est ce que j'appelle une guignolade intégrale.
Le PSG n'a jamais été mis en cause.
Voilà. Donc, hors de cause, alors qu'il n'a jamais été mis en cause, c'est une guignolade. Je pense qu'il devrait, enfin, les gens qui ont fait ces titres-là devraient avoir honte, mais je pense qu'ils n'ont pas honte, parce que ça fait partie maintenant de leur business et de leur façon
après,
de procéder.
Après, la une, c'est pas forcément le journaliste qui écrit l'article, par exemple, qui l'a choisi. Tu sais comment ça fonctionne.
Oui, non, mais c'est une ligne éditoriale. La ligne éditoriale.
Non, mais journal. D'accord. Mais moi, je vous le dis, ça fonctionne pas comme ça,
oui,
les gars.
Je sais. Ouais. Mais la ligne éditoriale.
Enfin, il y a bien quelqu'un qui décide.
Oui, mais il y a, justement, c'est soit le red chef
qui l'a mis.
Non, mais c'est le red chef, c'est pas le red chef qui écrit forcément le papier. Voilà, même d'ailleurs.
Le décideur.
La ligne éditoriale est absolument claire. C'est une guignolade permanente autour du PSG parce qu'il a été décidé que c'était comme ça que ça marcherait plus pour vendre le papier. Il n'y a jamais eu le moindre doute quant à l'implication du PSG dans cette à faire. Je sais même pas ce que c'est en fait. Donc voilà, fin de cette
guignolade ce soir. Juste parce que moi je suis un ancien joueur, je connais pas les rouages de la presse. Tu veux me dire que les journalistes qui écrivent les articles au sein de ce journal avec cette une là
ne sont pas
d'accord avec ce qu'ils écrivent, quoi. Je veux dire.
Non, j'ai jamais dit ça.
J'essaie de comprendre.
Mais par exemple, je vais donner un truc tout con.
On leur demande d'écrire souvent, un article dans un certain sens.
Non, pas nécessairement. Non, c'est pas nécessairement. Après, ils ont leurs infos, ils les balancent. Voilà. Et un article peut être écrit.
Ils ont leurs infos.
Non, mais ils peuvent avoir leurs informations.
Non, mais attends.
Je te parle pas de ce cas précis.
Tu ne peux pas dire soupçon pour ensuite expliquer que en fait il y en a pas vraiment, mais que ça porte sur l'autre club. Mais toi, tu fais toute ta com.
Et donc t'es en train de dire la même chose. Mais non, mais j'essaie de t'expliquer.
Tu ne peux pas faire ça.
Bon, Daniel, si je peux en placer une, j'essaie simplement de te dire, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, que le titre même d'un article, c'est pas le mec qui l'a écrit qui le choisit très souvent. Donc toi, tu ouvres ton canard, tu vois le
contenu de l'article.
Tu dis merde. Et je vais même te dire, il y a plein de journalistes qui sont souvent très vénères. Moi, ça m'arrive parce que j'écris aussi dans la presse. Parce que je vois le titre, je me dis putain, mais merde, pourquoi ils ont mis ça alors que c'est pas ce que je souhaitais.
Tu me permettras déjà de ne pas y croire. Me permets de pas y croire.
Et c'est
déjà
comme ça que ça fonctionne pourtant.
Je sais qu'il y a des cas où ça fonctionne, mais qu'en l'occurrence, le PSG est un sujet assez sérieux pour ce média pour que tout soit fait en concertation et que le storytelling aille dans ce sens-là. Donc je n'y croirais pas. C'est une guignolade intégrale et on ne peut pas faire ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Tu ne peux pas faire cette une comme ça, ce qu'il y a écrit dedans, pour au final mettre ce qui va sortir
c'est
aujourd'hui
la diffamation,
le PSG hors de cause.
Pas tout à fait, on est dans le soupçon, on n'est pas dans l'accusation, mais
excuse-moi,
presque.
Mais...
Tiens, dans quelques instants, les gars, on réécoutera Jean-Michel Aulas qui était l'invité de Breaking Sport, parce que Arthur Robert me parle en même temps. En fait, on est super à l'heure.
Il est relou.
On écoutera Jean-Michel Aulas dans quelques instants également. On va parler un peu de la VAR également, ou du VAR d'ailleurs. Tiens, on a une explication là, tiens, sur le hashtag RMC Live. C'est aussi à ça que ça sert. Voilà, sur la prononciation du VAR. Tiens, je vais te le retrouver. C'est Doggy Doug. Doggy Dog, même. Qui nous disait. Tiens, je vais le retrouver. Bon, je le retrouverai après, tiens, dans quelques instants. À tout de suite avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo.
RMC Football Show, l'After Foot.